Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Bonjour à nos chers auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous. Là, il fait beau, hein, il fait beau ces temps-ci. On a de belles journées, là, il faut quand même en profiter. La chaleur, après tout, on va la perdre après. Hein, donc, pour l'instant, il faut en profiter.
C'est ça. On est encore dans l'été, il faut en profiter.
Voilà, il faut en profiter. Et donc, je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de retrouver Damien également. Bon, je vais commencer. Bon, c'est pas triste en fait. Hein. Je vais parler de d'Annie Cordy. Annie Cordy qui est, voilà. Bon, c'est pas triste quand même parce qu'elle a eu une très très jolie vie. Mais bon, elle est partie. C'est comme ça. Elle était née le 16 juin 1928 à Laeken. Alors Laeken, c'est une commune qui est rattachée à Bruxelles. C'était vraiment une Belge tout au fond de son cœur, hein, quand même. Et puis, elle est décédée le 4 septembre à Valoris, dans les Alpes-Maritimes. Elle est décédée d'un malaise cardiaque, hein, en fait. Sa nièce, elle avait une nièce qui vivait avec elle, a appelé aussitôt les secours, mais ils n'ont pas pu la ranimer, quoi. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et ses obsèques, en fait, se sont déroulées le 12 septembre à Cannes. Voilà, donc les gens ont pu aller aussi à son enterrement. Donc c'était. Alors on l'appelait comment Annie Cordy ? Ben on l'appelait Nini la chance. Ouais, c'était ça. Elle était surnommée Nini la chance. Et la passion fait la force. Alors c'est quoi ? Elle était qui ? Elle était chanteuse, c'était une meneuse de revue, c'était une actrice belge. Et pour la petite histoire, un truc sympa, elle avait été anoblie en 2005 par le roi de Belgique. Elle était devenue baronne.
Ah oui.
Et oui. Ah oui. Eh ben oui. Alors bon, vite fait sur sa vie privée, il y a pas grand-chose à dire. En fait, elle a rencontré François-Henri Bruneau en 1951 et ils se sont mariés en 1958. Il est donc devenu son époux et son impresario. Malheureusement, gros, gros chagrin. Il est décédé le 9 février 1989. Il était quand même relativement jeune par rapport à l'époque. Il n'avait que 78 ans. Elle a donc passé... les années 90 ont quand même été très dures, en fait, pour elle. Eh oui, forcément. Mais comme elle avait, comme sa devise, hein, la passion fait la force, elle est retournée au travail, comme elle disait d'ailleurs, et elle a repris sa vie en main et son dynamisme et sa joie de vivre. Hein, c'est ça, voilà. Elle a continué. En fait, son début de carrière, date quand même de 1945. Elle a une longévité de carrière extraordinaire. Elle a enregistré plus de 700 chansons. C'est du style enjoué, festif quand même. Hein. Et elle a donné plus de 10 000 galas. Elle a joué dans une vingtaine de comédies musicales et d'opérettes. Elle a joué également dans une trentaine de séries et de téléfilms. Et également, elle a joué dans une dizaine de pièces de théâtre. Et évidemment, ce qui nous intéresse ici, à Radio Entre deux Mers, pendant l'émission sur le cinéma, c'est de savoir... Est-ce qu'elle a fait du cinéma ? Mais oui, mes chéris, elle a joué dans une quarantaine de films. Elle vantait les mérites du sourire. Et pourtant, quand je pense à certains films, il lui est arrivé d'incarner des rôles beaucoup plus graves, hein, justement pour le cinéma ou même pour des fictions de télévision. Alors, pour le cinéma, Moi, j'ai retenu quand même quelques films marquants. Alors, dans les rôles dramatiques, par exemple, en 1970, on la voit dans Le Passager de la pluie, qui est un film de René Clément, grand, grand réalisateur. Il y avait Marlène Jobert, Charles Bronson également. Elle jouait d'ailleurs le rôle de la mère de Marlène Jobert dans ce film. Elle y dévoile un talent dramatique absolu quoi, dans ce film. Et son talent dramatique est confirmé en 1971 dans le film Le Chat de Pierre Granier-Defer avec Jean Gabin et Simone Signoret. Elle le confirme également en 1976 dans le film La Rue Haute. Rue Haute de André Emmott avec Mort Schumann et Henri Alma. D'ailleurs, pour ce rôle, elle a reçu le prix, le prix de la meilleure comédienne pour le film Rue Haute. Et puis en 1990, dernier rôle dramatique, Un été après l'autre, d'Anne-Marie Etienne avec Paul Crochet et Monique Spadiani. Alors, voilà, pareil, quoi. Elle avait un talent dramatique extraordinaire. Eh, mais oui. Et puis après, on l'a vu dans pas mal de films populaires. Moi, j'en ai mis de côté. Par exemple, en 1973, Elle court la banlieue de Gérard Pires avec Marthe Keller et Jacques Higelin. Très chouette, ce film. Mes chéris, si vous trouvez le DVD un jour, n'hésitez pas. Prenez-le. Achetez-le parce que vraiment, Elle court la banlieue, ça vaut la peine. Et si vous aimiez Jacques Higelin en même temps, vous le revoyez comme ça, avec la sublime Marthe Keller. Et puis en 1994, on retrouve donc Annie Cordy, mon Dieu. C'est vrai que c'est une grande actrice, ça m'a échappé. Eh oui, vous voyez, on ne l'oublie pas. Donc en 1993, on la retrouve dans La Vengeance d'une blonde de Jeannot Swarks avec Christian Clavier, Marianne Chazelle et Clémentine Célarier. Pareil, elle a le rôle de la maman. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Dans les rôles comiques, elle était très douée aussi. Très, très douée. En 2004, on la retrouve dans Madame Édouard de Nadine Monfils avec Michel Blanc, Didier Bourdon, Josiane Balasco. En 2008, on la voit dans Disco de Fabien Otegnant avec Franck Dubosc, Emmanuel Béart et Gérard Depardieu. Disco, on l'a revu plusieurs fois d'ailleurs à la télévision. Il est repassé assez souvent. Et en 2008 également, on la voit dans Le Crime et notre affaire de Pascal Thomas avec Catherine Fraud et André Dussolier. Et Claude Rich d'ailleurs aussi. Voilà les films que j'ai retenus, moi, que j'ai mis de côté, parce qu'il y en a une quarantaine. J'ai préféré mettre de côté ceux qui me semblaient, comment dire, ceux dans lesquels elle développe un talent, le talent dramatique et le talent comique, certains, quoi, c'était dans ces films-là, les films dont je viens de parler. Elle a fait aussi beaucoup de doublages de dessins animés. Alors, par exemple, on l'entend dans Pocahontas, ça c'était en 1995, et dans Frères des ours aussi, en 2003, par exemple. Et ça, mes chéris, je vais vous dire, je l'ignorais. J'ignorais qu'Annie Cordy avait doublé les dessins animés. Voilà, je l'ai appris en même temps que vous, peut-être, mais vous le saviez sûrement, hein, oui. Et toi, Damien, tu savais qu'elle avait doublé les dessins animés ?
Non, je ne le savais pas, c'est une information du que tout. Tu me donnes.
Donc, elle savait faire un tas de choses, Annie Cordy. Voilà, elle a eu une vie très heureuse. C'est dommage parce qu'elle aurait peut-être pu encore nous étonner. Mais c'est comme ça, voilà. Finalement, elle s'est endormie et puis elle est partie. Et elle va retrouver François-Henri Bruneau, son époux, avec qui elle a eu une vie extraordinaire. Voilà. Un couple. Bien, au revoir Annie Cordy. Et à bientôt, peut-être on la reverra dans certains films justement, qui repasseront et on pourra encore l'apprécier. Et puis on va passer donc aux films qui sortent en ce moment. Eh mais oui. Alors j'en ai un, il y en a très peu en ce moment. J'en ai un pour les enfants à partir de 3 ans. Oh, ma petite copine Naya qui va emmener son petit frère Liwen. Je les vois très bien aller main dans la main voir ce film. Ça s'appelle Les Mal-aimés. C'est une animation française. Moi j'ai trouvé que c'était absolument adorable. Hein, on doit ce dessin animé à Hélène Ducrot. Hélène Ducrot, c'est une réalisatrice, animatrice, créatrice. Elle est créatrice graphique des personnages. Elle est française, elle est pleine de talent. Le film dure 0,40 minutes. Oui. Donc, il est bien à partir de 3 ans. 40 minutes, c'est bien. Et alors, c'est quoi ? Eh bien, on a quand même plusieurs petits courts-métrages, évidemment, comme dans tous les films pour les enfants très, très jeunes. Notre planète regorge de vie et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister en étant et être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines espèces nous font peur. Alors le programme, il y a 4 courts-métrages, ça nous montre avec douceur et tendresse l'univers de certains de ces mal-aimés auxquels les contes et légendes ont simplement, je bégaye aujourd'hui décidément. Chaque fois que je parle de quelqu'un, d'un artiste qui est décédé, ça me fait un peu cet effet-là. C'est pas la première fois. Donc, auxquels les contes et légendes, ou simplement les préjugés, ont malheureusement donné une mauvaise réputation à ces mal-aimés. Mais c'est quoi ces mal-aimés ? Alors, le premier court-métrage, c'est Lupin. Lupin, papier découpé, c'est en couleur. C'est l'histoire d'un jeune loup qui s'aventure hors de son terrier pour la première fois à l'insu de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve un abri dans le jardin d'un village. Jeanne, Gaston et Louis, les enfants des chasseurs, le découvrent et décident de le ramener chez lui. Premier mal-aimé, c'est le loup. Deuxième mal-aimé, comment j'ai vaincu ma peur des humains ? Le premier, c'était en papier découpé. Hein. Les personnages sont en papier découpé, c'est ce que j'ai dit. Le deuxième, c'est un dessin animé en couleur. As-tu peur des araignées ? Point d'interrogation. Parce que Dédalia a super peur des humains. C'est une araignée de maison. Avec sa meilleure amie, elles ont le rêve d'aller à New York. Pas facile pour Dédalia. New York, c'est plein d'humains. Là, on a donc l'araignée. Ensuite, on a Maraude et Murphy. C'est un dessin animé et papier découpé. Il y a les deux, hein. Dessin animé et le papier découpé en couleur, bien sûr. Maraude se perd dans la tempête. Murphy sort de sa caverne pour l'aider à retrouver son gîte et grignoter des moustiques. Alors c'est quoi Maraude et Murphy ? Eh bien, c'est une nuit ordinaire pour deux chauves-souris. Eh oui, Maraude et Murphy, les chauves-souris. Et ensuite, le dernier, c'est Terre de Verre. C'est un dessin animé en couleur. Savez-vous que les vers de terre chantent ? Mais oui, ils chantent. Collez votre oreille contre l'herbe et écoutez. Tout nu, tout gluant, tout rampant, sans pattes, sans griffes et sans dents, on creuse sans malice pour votre bénéfice, à votre service et sans artifice. C'est nous les vers de terre, amis et solidaires. Voilà, c'est un très 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 joli film avec ces courts-métrages adorables. Et oui, on retrouve effectivement des animaux sur qui on a dit beaucoup de choses désagréables, qui sont donc les mal-aimés. Voilà. Merci Hélène Ducrot. C'est une jolie leçon en plus, voilà, pour les petits, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, tous ces animaux qui font si peur ou qui dégoûtent ne sont pas si mal que ça. Moi qui ai un peu peur des araignées, mes chéris, franchement, je l'avoue, finalement, je vais réfléchir un peu là-dessus et regarder Dédalia et voir un peu, elle qui a si peur des humains. Je vais réfléchir là-dessus. Ah ouais. Et toi Damien, tu as peur de quoi ? Du loup, des chauves-souris, des vers de terre ?
Non,
des
ça
araignées ?
Va. Non, les araignées, ça pas va. Plus, quoi. Non, ça va, je respecte
non,
les
ça
animaux.
Va. Bon, ensuite, j'ai une comédie. C'est de la romance, c'est français. C'est Antoinette dans les Cévennes. Ça dure 1h35. Alors, moi, je trouve, c'est un petit coup de cœur, franchement. La réalisatrice s'appelle Caroline Vignal. C'est une actrice en même temps, scénariste. Elle est française, elle a 52 ans. Elle est écrivaine également pour la jeunesse. Hein. C'est de la littérature pour la jeunesse. Très, très beau. Ses livres sont très beaux. C'est titré, en fait, c'est titré dans les critiques. Hein. Quand je dis c'est titré, je parle des journaux. Hein. Bien sûr, je ne cite pas les journaux, mais c'est titré « La comédie de la rentrée ». une balade solidaire, libératrice. J'ai dit solidaire, c'est solaire. Hein. Une balade solaire et libératrice, c'est une. Alors, c'est irrésistible d'humour, nous disent-ils, et d'émotion. Voilà, c'est ce qu'on lit dans les journaux. C'est un, alors, il y a des acteurs que j'adore, moi, là-dedans. Hein. Il y en a deux en particulier, vraiment, qui sont assez formidables. On va en parler après le synopsis, quand même. En fait, le film a fait partie de la sélection officielle de Cannes, hein, 2020. Donc, ça fait des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors, quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps. Elle part sur ses traces, mais à son arrivée, point de Vladimir. Seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple. Il y a trois personnages, en fait. Hein. Il y a Antoinette, Vladimir, il y a un âne. L'âne Patrick. Alors, il y a eu quand même deux nominations pour ce film, dont une au Festival du film francophone d'Angoulême 2020, voilà, nommée compétition, et une au Festival de Cannes 2020, c'est catégorie label les comédies. Donc, c'est quand même deux belles nominations, franchement. Alors, dans les actrices, alors il y en a un qui me j'ai vu dans pas mal de films, Benjamin Laverne. Il est assez extraordinaire, cet acteur, finalement. Il sait jouer un tas de personnages. En tout cas, quand il est dans un film, on peut se dire que le film ne va pas être mal. Ça va plutôt être un bon film. Ouais, on a Laure Calamy, pareil, extraordinaire. Olivia Côte. Pareil, voilà, Marc Fraise. Ce sont des acteurs qu'on reconnaît. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, quand on les voit, même si on ne connaît pas trop leur nom, on les reconnaît aussitôt. Mais c'est vraiment pareil, j'ai dit, que c'était un coup de cœur de toute façon. Quoi. Et l'âne Patrick, alors lui, vraiment, l'âne Patrick, oh, mais ce qu'il est mignon! Alors, en fait, elle nous dit, Caroline Vignal nous dit, elle a eu un énorme coup de cœur pour ces paysages, pour cette région sauvage, les Cévennes. Hein. C'est très peu peuplé. Et elle a eu un coup de cœur pour les personnes, des néo-ruraux, pour la plupart, nous dit-elle. Et nous les avons rencontrés avec un grand plaisir. De cette brève randonnée, ma fille, qui avait alors 6 ans, était du voyage avec un âne. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait sa petite fille qui était là. Et quand elle a vu l'âne, quand elle a suivi cette randonnée avec un âne, elle en garde un souvenir idyllique. Elle nous dit qu'elle est originaire du Midi et que petite, elle a passé toutes ses vacances dans l'Hérault et le Gard. Et je crois, ajoute-t-elle, que j'ai retrouvé dans les Cévennes quelque chose du Midi de mon enfance. On est retourné marcher l'année suivante. Cette fois-ci, l'âne qui nous accompagnait s'appelait Patrick. Ce détail cocasse qui me faisait beaucoup rire a semé l'idée d'une comédie qui aurait un âne pour personnage principal. Alors c'est bien, bon. Alors dans le rôle de l'héroïne, effectivement, Laure Calamy, c'était le premier choix hein, de la réalisatrice. En fait, la réalisatrice l'a vue dans 10%, la série 10%, et elle l'a adorée. Voilà, elle a trouvé qu'elle était très douée. Et du coup, elle nous dit de Laure Calamy, elle est incroyablement drôle et émouvante. Et puis, elle a un truc vraiment populaire, pas si répandu chez les acteurs français, qui me touche. Et là, c'était son premier choix. Hein. Elle n'a pas hésité. Le rôle était pour Laure Calamy. Alors, le personnage de l'âne, l'âne qui est adorable, hein, bien sûr, bah, tous les ânes d'ailleurs, un âne, c'est mignon comme tout. Le plus grand défi pour Laure Calamy, justement, qui, elle, se retrouve avec l'âne, était de jouer face à un âne et que le spectateur considère l'animal comme un personnage. Et oui, il fallait qu'on y croie, qu'on croie qu'il écoute Antoinette, qu'il la juge parfois, qu'il la comprend et qu'il la soutient. Et oui, il fallait donc se mettre dans la tête de l'âne et faire comme s'il pensait tout ça, que c'était vraiment un personnage. Il fallait qu'on ait envie, nous dit-elle, de le regarder presque autant que les humains du film. Alors, Laure Calamy adore les ânes. Elle était ravie d'en avoir un comme partenaire à l'écran. Pour le reste, tout était entre les mains de la dresseuse. Émilie Michelon, qui a dressé Patrick, avec laquelle nous avons travaillé. C'était son premier tournage. Elle vient du spectacle vivant. Elle s'est formée, ah bah oui, ça veut tout dire, mes chéris, elle s'est formée chez Bartabas. Bartabas, qui est le dresseur animalier le plus connu du monde quasiment, parce qu'il travaille aussi aux États-Unis. Hein. Il est demandé par tout le monde. Alors, pour jouer Patrick, nous avions deux ânes. L'un très vif, très technique, qui faisait toutes les cascades, et l'autre beaucoup plus lent, plus expressif, très acteur studio, voilà, qui avait en charge les scènes d'émotion. Pour qu'on les confonde, on en avait mis un au régime maigre, l'autre au régime gras, et ils sont passés, chez le coloriste. Voilà. Ça, c'est la réalisatrice qui nous le dit, hein. Je vous mets au défi de les distinguer, même la monteuse, après des mois, le nez sur les roches, n'y parvenez pas. C'est extraordinaire ce qu'il a fallu faire quand même avec cet âne, Patrick, enfin avec ces deux ânes, puisque finalement il y en a deux qui jouent. Et c'est quand même... Alors en fait, les seules angoisses que Caroline Vignal a eues pendant le tournage, c'était surtout lié à la météo. Et oui. Alors l'équipe de tournage était presque tout le temps dehors. Du coup, les scènes avec l'âne se sont déroulées sans réel problème. Il nous a même fait des cadeaux inattendus. Par exemple, il se mettait à braire alors que le scénario ne l'avait pas prévu. Voilà. Pour les comédiens, ce n'était pas toujours simple de jouer tout en drivant l'âne qui devait avancer ni trop vite, ni trop lentement, s'arrêter à tel ou tel moment, le tout avec un steadicammer, une perche et toute une équipe sous le nez. Laure était très à l'aise, c'était parfois plus difficile pour les acteurs qui étaient de passage sur le tournage. Mais finalement, j'ai obtenu tout ce que j'avais imaginé. Donc, on imagine un peu quand même, hein, les acteurs effectivement qui arrivaient comme ça et qui n'étaient pas du tout habitués, qui ne connaissaient pas les ânes, qui n'étaient pas habitués. Ça devait quand même être assez compliqué pour eux finalement de jouer avec un âne. Et voilà. Et donc, en fait, les Cévennes, la réalisatrice qui est amoureuse des Cévennes, hein, elle nous dit que les Cévennes constituent un personnage du film à part entière du film. C'est ça. Cette région offre de grands espaces, souvent non cultivés, comme on en voit peu en France. On a cette sensation qu'on peut marcher des heures sans croiser personne. On voit loin. Ces cieux, ces paysages donnent une impression d'immensité. On pense bien sûr aux westerns, aux grands films d'aventure. Peu de régions en France offrent cela. Cette beauté aride, sauvage, nous lave les yeux et elle guérit Antoinette. En la traversant, elle apprend qu'elle peut compter sur elle-même et se libère de tout ce dont elle croyait dépendre. Voilà le personnage d'Antoinette. Eh oui. Voilà, c'est un petit film, enfin c'est un film magnifique, merveilleux, moi je trouve. Mon petit coup de cœur là, je le répète, j'y crois. Je crois vraiment à ce film. Franchement, s'il y en a à voir, c'est Antoinette dans les Cévennes.
Et on écoute la bande-annonce tout de suite.
Oui, merci Damien. Allez, à nous.
Elle est où ta femme?
J'ai aucune idée. Antoinette, je suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes.
Tous les trois?
Non, pas toi, nous trois avec Alice.
Six jours de marche, on est d'accord?
Oui, c'est ça, mais...
Oui, 170 euros.
870 euros.
Vous marchez avec un âne?
Pourquoi? Pas vous?
Ah non!
On n'est pas les fous, hein.
Bonjour Patrick.
Voilà, s'il prend de la vitesse dans les descentes, hélicoptère, hein, il a peur, il s'arrête.
Et pour avancer?
Allez Patrick, avance!
Là, il faut vraiment que tu t'imposes. Hein.
Avance!
Faut que tu lui montres qui est le maître.
Allez mon gros, on avance!
Qu'est-ce qui va pas?
Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde!
Vladimir, il me plaisait pas du tout. C'était pas du tout mon genre. Oh,
maîtresse? Oh, Alice! Ça alors, hein?
Ça alors, c'est extraordinaire.
Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain.
Je vais rester un peu avec vous.
Oh non, 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 ça me gêne là.
Non, bah faut pas.
Je suis pas venue pour des bonnes raisons.
Antoinette!
L'important, c'est pas le but, c'est le chemin.
Arrête, Patrick !
Vous déjeunez pas avec nous ?
Vous déjeunez pas avec nous ?
Antoinette dans les Cévennes. Donc maintenant, voilà. On continue avec quel film ?
Alors on continue. Ah ben alors c'est pareil là. J'avoue que là aussi, j'aurais bien mis un petit coup de cœur. Les choses qu'on dit, virgule, les choses qu'on fait. Ça c'est le titre. c'est pas quelque chose que je te demande, hein, ou que je demande aux auditeurs. Non, c'est le titre. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est un drame. C'est de la romance aussi. C'est un film français. Pareil, hein, moi, il m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu, j'avais envie d'en parler absolument.
Donc, c'est réalisé par Emmanuel Mouret. Oh, on a déjà parlé de lui, hein, acteur, réalisateur, scénariste, il est français, il a 50 ans. Oh, il a déjà eu un prix, il a eu une trentaine de nominations, dont une nomination pour les choses qu'on dit, virgule, les choses qu'on fait. Au Festival de Cannes 2020, dans catégorie label Les Nouveaux Venus. C'est bien mérité. Hein, son... Ah oui, la nomination, là, est tout à fait... il aurait même pu en avoir d'autres, en fait. Enfin, il a fait partie de la sélection officielle, ce qui est déjà énorme. C'est l'histoire de Daphné, enceinte de 3 mois, qui est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin, qu'elle n'avait jamais rencontré. Pendant 4 jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient les récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées. Ah là là, ça c'est toujours assez dangereux, hein, ce genre de discussion avec un cousin. Alors, dans les rôles, on a Camélia Jordana, mais c'est la belle Daphné. On a Maxime Nils Schneider. On a Vincent Macaigne, qui joue François. Émilie Dequen, voilà, qui joue Louise, dans les rôles principaux. Donc, c'est quand même... Alors, c'est pareil, hein, c'est un film qui est... c'est titré aussi, que c'est un joli film. Il a beaucoup plu également aux critiques. Donc, on a aussi Louis-Do de Lanxin dans le film, et puis Jean-Baptiste Anoumont. En fait, on a Julia Piaton, on a Guillaume Gouic, on a beaucoup de gens connus quand même, hein. Ils sont quasiment tous connus. Voilà, quand on les voit, on les aime, ils sont doués, ils font ça très bien. Donc, ça dure 2h02, on a même des pop-corns, même si on veut, hein. Mais oui. Pourquoi pas ? Et je me demande si Damien a pensé à une petite bande-annonce.
Oui, et on l'écoute tout de suite. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait.
Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi ? Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. Puis c'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi.
Pourquoi c'est impossible ?
Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Tu disais pas parfois en observant ton ami que c'est toi qui aurais dû être à sa place?
Je savais pas très bien ce que j'éprouvais.
Mais t'étais amoureux d'elle, c'est assez évident. Sinon ça aurait pas été aussi cruel. Moi les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant, ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié.
J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée.
Mais... Non, sinon j'aurais pas couché avec toi.
Pourquoi tu voulais coucher avec moi alors?
Parce que t'étais mariée. Pensant que justement, t'allais pas vouloir recommencer. Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous.
Ah bon? Pourquoi?
Je suis déjà mariée.
T'es mariée?
T'es avec quelqu'un, je peux pas.
Mais même un baiser?
Même un baiser, c'est un principe.
Je sais pas ce que je veux. Enfin, si, mais non, enfin bon, quand même. Toi, tu pourrais vivre résigné.
Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de l'accompagner de l'autre?
Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites?
L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement.
Alors, maintenant, on va continuer avec les films qui sortent cette semaine.
Oui. Alors, j'ai mis de côté « J'irai mourir dans les Carpates ». Oui, évidemment, quand on lit le titre, on se dit « Aïe, 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 qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, mes amis, c'est une comédie, c'est un thriller également français, « J'irai mourir dans les Carpates ». C'est d'Antoine de Maximy, acteur, réalisateur, scénariste français de 61 ans.
Alors, lui, il a plus l'habitude d'aller dormir quelque part que de mourir.
Voilà, tout à fait, tu le connais, c'est parfaitement ça. Tout à fait. Il a déjà deux nominations, donc une nomination justement pour « J'irai mourir dans les Carpates » au Festival du film francophone d'Angoulême 2020 dans la catégorie avant-première. Mais oui, c'est ce Maxime-là justement, absolument. L'histoire du film commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série « J'irai dormir chez vous », a été emporté dans une rivière et son corps n'a pas été retrouvé. Là, je parle du film, évidemment, hein, le synopsis. Le matériel et les images du Globe-Squatter, et oui, c'est pas le Globe-Trotter, c'est le Globe-Squatter, sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images, elle s'attaque au montage du film. Mais il y a des détails, qui attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit, le doute s'insinue. L'histoire n'est peut-être pas aussi simple. Point de suspension. Ah ! Voyons, voyons. Oui, c'était quand même assez curieux. Alors, cet Antoine de Maximy, bah, c'est qui ? Je ne savais pas, mais il est issu d'une famille assez bohème, hein, Antoine de Maximy, on se serait douté un petit peu quand même. Hein. Il est passionné de voyages, d'expéditions et de découvertes. C'est aussi un homme d'image, parce qu'il a commencé à le filmer très tôt. Il a réalisé une fiction de 3 minutes en Super 8 à 12 ans. Il est viré du lycée en seconde et il s'engage au cinéma des armées comme ingénieur du son. Il a couvert plusieurs conflits d'ailleurs avant de faire un premier pas dans le cinéma, toujours comme ingénieur du son. Sur le film, par exemple, Le Peuple Singe, en 1989, de Gérard Vienne. Et puis, il a réalisé, en fait, de nombreux documentaires animaliers et scientifiques partout sur la planète. Alors, c'est aussi bien à 6800 mètres d'altitude qu'en sous-marin à 6000 mètres de profondeur dans le Pacifique. Ah, rien ne l'arrête, hein, Antoine de Maximy, rien ne lui fait peur. Hein. Et c'est en 2004 qu'il se fait connaître du grand public en créant et en présentant la série « J'irai dormir chez vous », des carnets de voyage fantaisistes et totalement improvisés, tournés dans plus de 60 pays. Le concept est unique. Il se filme seul, à l'aide de plusieurs caméras, en cherchant à dormir chez l'habitant. À partir de ce concept, Antoine de Maximy réalise un long métrage « J'irai dormir à Hollywood », dans lequel il traverse seul les États-Unis avec une bonne dose d'autodérision et une grande tendresse pour les personnages rencontrés. Le film sorti en salle en 2008 est nommé au César. C'était ça la nomination dont je parlais, la première. Poursuivant cette idée, il décide alors d'écrire et de réaliser son premier long métrage de fiction, « J'irai mourir dans les Carpates ». Et oui, depuis toujours, en fait, Antoine Maximy recherche, ben, il recherche quoi ? Il recherche l'originalité, voilà, faire autrement, prendre un autre chemin. Avec « J'irai dormir chez vous », en filmant avec son harnais et ses trois caméras, il a inventé une écriture filmique. « Je me disais, dit-il, que je pouvais imaginer qu'on n'aurait pas pu écrire avant. » Voilà. Imaginez une enquête, voilà, qu'on n'aurait pas pu écrire. D'où l'idée d'une fiction qui prendrait la forme d'une enquête à travers les images. Eh oui, c'est ça, imaginez une enquête qu'on n'aurait pas pu écrire avant. Donc vraiment sur le vif. Ah oui, c'est quand même un personnage. Hein. Je me suis dit que ce film, quand même, il fallait en parler parce que, à mon avis, il est sûrement très réussi. Franchement. De toute façon, il nous dit que construire cette enquête, car le film, me passionnait. Mais tu m'étonnes. Alors, pour ça, il devait trouver des comédiens aussi. Des comédiens qui n'aient pas peur d'un film décalé avec un metteur en scène débutant. Alors, Alice Paul et Max Boul... Attends, c'est-à-dire que là, il y a Antoine de Maximy dans le film, c'est Antoine. Ensuite, il y a Alice Paul qui joue Agnès. Et il y a Max Boublil qui joue Stéphane Votovic, qui travaille avec Agnès. Voilà, j'avais pas donné leur nom. Et là, il en parle. Donc, ils ont eu ce courage, nous dit-il, et cette fantaisie. Ces deux acteurs ont dit oui. Et ça s'est vraiment bien passé. Avoir fait un stage de direction d'acteur de 7 semaines m'a également beaucoup aidé, nous dit le réalisateur. J'y ai appris que la direction d'acteur est beaucoup une histoire de confiance et de communication. Quand on sait ce qu'on veut obtenir, il faut le faire ressentir aux comédiens, ne jamais leur dire comment faire. Et quand on y arrive, les choses se font harmonieusement. Voilà ce qu'il a appris pendant son stage. J'irai mourir dans les Carpates. En fait, n'aurait pas pu exister si Antoine de Maximy n'était pas passé à l'acte en se disant qu'à 60 ans, c'était maintenant ou jamais. Voilà. Avant cette période, il avait ses producteurs, mais aucun partenaire financier n'était intéressé par le film. J'ai donc lancé un financement participatif, parcouru 6000 km tout seul durant 3 semaines, à travers la France, pour défendre le projet lors de conférences. Et nous avons récolté 256 000 euros. C'est ce qui a déclenché tout le processus budgétaire en montrant aux investisseurs qu'il y avait une demande du public. Voilà. C'est comme ça. Au final, ils ont eu un budget de 1 500 000 euros qui a été totalement mis au service du film. Parce que pendant la tournée, Apollo Film, le distributeur nous a rejoint, tout comme France Télévisions et les autres diffuseurs. Voilà comment il est arrivé à 1 500 000 euros de budget. Et pourquoi les Carpates, au fait? Ben, il a tourné un épisode de J'irai dormir chez vous en Roumanie, il y a une quinzaine d'années. Et il se souvient qu'une fois sorti des grandes villes, on découvrait une campagne comme la France d'avant-guerre, avec des charrettes à chevaux, des paysans avec des fourches et des mobilettes. Ça m'avait frappé, dit-il. Et même si les choses ont complètement changé en 15 ans, j'avais gardé cette image en tête. Et je me suis concentrée sur les Carpates, parce qu'elles s'étendent de la Roumanie à la Pologne, en passant par de nombreux pays comme l'Ukraine. Cela donne un côté mystérieux sans s'attacher à un pays en particulier. Pas mal l'idée des Carpates, en fait. Et alors, il y a des acteurs roumains, du coup, dans ce film. Et oui, ce sont quasiment tous des comédiens de théâtre qui jouent Faust ou Shakespeare, car ils vivent de cela, le cinéma n'existant pas vraiment en tant qu'industrie dans leur pays. Ils savent s'adapter, modifier leur jeu selon les prises, apporter des variantes. Ce qui était particulier aussi, nous dit le réalisateur, c'est que les scènes où ils figurent avaient été tournées avec mon matériel habituel. Donc, toute l'équipe technique devait se cacher hors du champ à 360 degrés de mes caméras. Me retrouver seul avec les comédiens m'a beaucoup aidé à instaurer un climat plus intime, à obtenir des scènes plus vraies que nature. Une fois de plus, ce tournage, comme le projet tout entier, n'est pas très classique. Voilà ce qu'il nous confie. Alors pourquoi je voulais absolument en parler? Parce que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut la peine, vraiment, d'aller mourir dans les Carpates. En fait, voilà. C'est ma foi. Ça dure, il dure, je ne sais plus combien il dure, 1h36, je crois. Oui, c'est ça. Et je pense que Damien a pensé à nous, non? Je me trompe?
Non, tu te trompes pas. On écoute tout de suite la bande-annonce. J'irai mourir dans les Carpates.
Ben voilà, je viens d'arriver au Mali. Et l'idée, c'est d'aller dormir chez les gens. Je sais pas qui.
Ça, c'était le premier épisode de la série J'irai dormir chez vous. Et depuis, j'ai parcouru une 60aine de pays. Alors bien sûr, il était vraiment compliqué. Et du coup, je me suis souvent demandé ce qui se passerait si un jour ça dérapait vraiment.
Antoine de Maximy, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpates.
Je vous présente Agnès, la monteuse d'Antoine.
Lieutenant Laurent Logier.
Bonjour. Le lieutenant Logier vient de rapporter les affaires d'Antoine.
Oui, il y a beaucoup de matériel et pas mal de cassettes.
Il manque de cassettes?
C'est peut-être Antoine qui les a perdues.
Coucou Agnès.
Quand le premier jour, tout le monde te fait des sourires comme ça, eh ben c'est un tournage qui démarre bien.
Alors là, je viens d'arriver à Brann, dans les contreforts des Carpates.
Vous disiez toujours, le plus important, s'il m'arrive quelque chose, c'est que vous finissiez le film.
J'ai envie d'aller vers le nord.
Je suis pas sûre que c'est bien là.
Depuis qu'il est arrivé dans le nord des Carpates, il a du mal avec les gens.
Get out.
I am leaving.
Viens voir, je vois. Ouais.
Mais si c'était pas un accident?
Bah non, Agnès.
Qu'est-ce que c'est que cet arbre?
taré.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, voilà.
Non, mais pour avancer, il faut des preuves.
Le château de Dracula, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dormir chez vous?
Je sais pas si on va pas changer de registre.
C'est quand même très bizarre de faire ce genre de geste discrètement. Là, on dirait qu'il complote.
Faut aller enquêter là-bas.
Vous croyez qu'on pourrait le retrouver? Qu'il pourrait être encore vivant?
Et maintenant, nous découvrons quel film?
Ah, alors là, j'ai... Ben oui, alors j'en ai un. Alors celui-là, il vient de loin, parce qu'il aurait dû sortir normalement le 25 mars. J'en avais parlé, je me souviens, je m'étais même trompée de date à l'époque. Le jour où j'en avais parlé, c'était pas ce jour-là, son jour de sortie. J'en avais parlé, je sais pas, je crois que c'était un mois avant ou un truc comme ça. En tout cas, je m'étais trompée dans les dates, mais j'ignorais à ce moment-là qu'il y aurait un phénomène sanitaire qui empêcherait de toute façon la sortie à la bonne date, c'est-à-dire le 25 mars. Donc là, on l'a pour le 16 septembre, ça s'appelle « La Maquisarde ». C'est un drame historique algérien et français. Alors je le dis tout de suite, c'est quand même très dur. C'est un film très dur. Pour les... moi j'aurais mis un... c'est curieux parce qu'il n'y a pas d'avertissement et pourtant, moi j'en aurais mis un. Avertissement pour la sensibilité, pour les propos, les images, etc., qui peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Je le dis parce que je le pense comme ça, en fait. Maintenant, après, mes chéris, vous faites comme vous voulez. C'est un film de Nora Hamdi. C'est une artiste romancière, elle est réalisatrice, elle est également scénariste, elle est française, elle a 51 ans. C'est son deuxième long métrage. Et le film est adapté d'un de ses livres, hein, puisque j'ai dit qu'elle était romancière, qui s'appelle La Maquisarde. D'ailleurs, si vous voulez le trouver, on le trouve très facilement. Pour les personnes un peu sensibles, je pense que si vous êtes attiré par ce film, il vaudrait peut-être mieux lire le livre avant. Ce serait peut-être aussi bien. Ça se passe en Algérie en 1956. Plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom, une jeune paysanne devient, malgré elle, une maquisarde. Mais lors d'une attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos qui la conduit dans un lieu d'interrogatoire interdit où elle est enfermée avec une ancienne résistante française. C'est une sorte de femme dans une guerre sans nom. Alors, dans les rôles principaux, on a Soissane Abès, on a Émilie Favre-Bertin, Bastien Tossetti, Mohamed Azoug. Il est très bien fait, c'est sûr, hein, mais voilà, c'est quand même... moi, je crois qu'il vaut mieux lire le livre avant, pour être sûr d'avoir le courage d'aller voir le film, en fait, quand même. Alors, le point de départ du livre, justement, La Maquisarde, ça a commencé le jour où il y a une femme qui s'est confiée sur sa vie de jeune fille pendant la guerre d'Algérie. Par bribes, elle nous dit, la réalisatrice nous dit, par bribes, cette femme m'a parlé du ratissage de son village, de son soutien à son frère maquisard, puis de son enfermement au camp de concentration où elle a fui grâce à un soldat français qui lui a sauvé la vie en la laissant s'échapper. C'est là que j'ai compris la complexité de cette guerre sans nom. En l'écoutant, je n'ai posé aucune question. Elle parlait par bribes, par zone d'ombre. Mettre des mots sur ces mots était déjà énorme. À partir de là, j'ai écrit le livre en essayant de comprendre. Je voulais entrer dans sa peau. Même si je n'ai pas connu de guerre ni vu de mort, c'était important de faire vivre son témoignage à travers une fiction. Puis après un travail d'enquête pour vérifier les faits historiques, le livre La Maquisarde est né. Voilà. Donc La Maquisarde, je le dis, c'est son deuxième long métrage, hein. C'est par devoir de mémoire qu'elle a choisi ce sujet qui la touche personnellement. Elle nous dit qu'il est important que la France se réconcilie avec son passé afin de mieux aborder l'avenir. Regard sur le passé pour ne pas répéter les erreurs de l'histoire. À l'époque, on ne nommait pas cette guerre. On disait des événements. Voilà. C'est pour cela d'ailleurs que pour le film, j'ai intégré des images d'archives du camp de concentration où ma mère était enfermée. Quand je suis retournée sur ces traces lors de mes enquêtes, je pensais voir un camp de regroupement, comme exactement ce que je lisais quoi, dans les nouvelles et dans certains rapports officiels. Mais en découvrant des fosses communes, avec des corps, le nom des morts encore gravé sur les murs. J'ai compris, c'était un camp de concentration. On a du mal à en parler, même, hein, mes chéris, de ça. Moi, j'ai un peu de mal parce que c'est très dur et on imagine la souffrance de ceux-là qui se sont trouvés là à ce moment-là. Et Nora Hamdi, la réalisatrice, a repensé à Michel Rocard, ancien ministre, surtout à l'homme qui a fait un rapport accablant en avril 1959 sur les camps de concentration sous De Gaulle pendant la guerre de libération. Elle nous précise, la presse française les appelait pudiquement des camps d'internement, et pourtant leurs effets sur les hommes et les femmes ont été dévastateurs. C'est vraiment, ce qu'il disait à l'époque. Mon avis, c'est que sont mortes de faim, 200 000 personnes, et en majorité des enfants. Devant le silence des autorités, Michel Rocard n'avait pas hésité à parler de déportation. Ce rapport a réussi à lever un coin de voile sur ces lieux de non-droit, et avec le temps, les choses avancent. Comme avec les derniers mots du président Emmanuel Macron sur le sujet, qui a qualifié la colonisation en Algérie comme un crime contre l'humanité. Alors, elle a eu du mal à trouver une production, Nora Hamdi, la réalisatrice. Pour son premier film, par exemple, Des poupées et des anges, elle avait eu un budget très confortable. Mais pour La Maquisarde, ça n'a pas du tout été le cas. Elle aurait voulu faire ce film comme le premier, mais après plusieurs versions, on me demandait d'édulcorer encore l'histoire. J'ai décidé de le faire autrement, car je ne pouvais pas s'adoucir le passé. Ça aurait été trahir la parole de ceux qui m'ont livré leur témoignage. La guerre d'Algérie est un sujet qu'il faut aborder dans sa vérité. Donc, après 3 ans de réécriture, j'ai décidé de reprendre la base du livre en prenant la partie dans l'histoire qui se passe quasiment en huis clos, et d'autoproduire le film. Ensuite, tout a été très vite. Voilà. J'avais 2 mois avant le tournage. Je pouvais tourner dans le lieu principal en août, parce qu'il était fermé au public les autres mois. Voilà. Le casting a été lancé, entre autres, sur Facebook. Beaucoup se sont présentés. Et avec tous mes partenaires, avec tous ces partenariats gracieux qui l'ont soutenu, sans casting, avec une équipe qui a compris ce film sans budget, eh bien le film a pris forme, finalement. Voilà. Moi, je voulais en parler parce que je trouve que c'est un très beau film, il est bien réalisé. Mais franchement, je conseille vraiment le livre avant de voir le film. La Maquisarde, ça dure 1h24. Et puis j'ai aussi, j'ai trouvé 2-3 documentaires extraordinaires. Alors le premier, par exemple, que j'ai mis en tête s'appelle Honeyland, c'est-à-dire le pays du miel. Alors c'est de Tamara Koteska, qui est une réalisatrice, scénariste macédonienne, parce que c'est un documentaire macédonien, en fait. Bien, Tamara Koteska, elle a 27 ans, et puis elle s'est fait aider quand même. Hein. C'est une sorte de co-réalisation de Ljubomir Stefanov, qui est un réalisateur, scénariste, producteur macédonien de 45 ans. Voilà, on va rappeler vite fait que la Macédoine, c'est une région géographique et historique de l'Europe du Sud et de la péninsule des Balkans, qui est bordée par les mers sur 3 côtés, en fait. Il y a la mer Adriatique, il y a la mer Ionienne à l'ouest, qui est située au sud de la mer Adriatique, et il y a une partie de la mer méditerranéenne, avec la mer Ionienne, d'ailleurs, ça va ensemble. Voilà, il y a 2 nominations pour ce documentaire aux Oscars Academy Awards 2020, c'est l'Oscar du meilleur film étranger, et l'Oscar également, une deuxième nomination, Oscar du meilleur film documentaire. Oui, ce qui ne m'étonne pas, ça dure 1h26 et c'est vraiment, c'est magnifique. Hein. La Honeyland, ça pourrait s'appeler aussi La femme aux abeilles. Le titre pourrait être aussi ça. C'est une fable lyrique et écologique. Ça, c'est titré. Hein. Une liberté farouche. Très beau. Ouais. Un très beau documentaire. une série, là, franchement, il faut essayer de le choper. Ou d'attendre, il va sortir très rapidement en DVD. Mais ce serait bien de le voir sur grand écran également. Eh oui. C'est ce que je regrette, moi, à chaque fois, pour choper des documentaires, c'est pas toujours évident. Et puis, j'ai un documentaire musical français aussi, qui s'appelle Africa Mia, qui a eu le prix de la SACEM du meilleur documentaire. Avec, alors, le héros principal, si on peut dire, c'est Bonkana Maïga. Ah, mais c'est qui, Bonkana Maïga? Est-ce que tu connais, toi, Damien? Ça te dit quelque chose?
Non, pas du tout.
Bonkana Maïga, c'est un musicien malien, originaire du Gao. Le Gao, c'est une commune qui est une commune, pour situer comme ça, sur le fleuve Niger. Alors, ce Bonkana Maïga, il a débuté la musique avec le Negro Band. C'était dans les années 60. Et avec cet orchestre, il a fait le tour du Mali. Après, il s'est perfectionné dans la maîtrise de la flûte et du saxophone à Cuba en 1963. En 1968, il a fondé un autre groupe, Les Merveilles du Mali. Il s'est exilé en Côte d'Ivoire en 1972. Et il a dit à ce moment-là, « Je suis parti du Mali par la fenêtre et la Côte d'Ivoire m'a ouvert grande ses portes. » Il a fait une grande partie de sa carrière à Abidjan. Il a été successivement professeur de musique à l'Institut National des Arts et directeur adjoint du Conservatoire de Côte d'Ivoire. Il a formé et dirigé pendant 14 ans l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, la RTI. Il se consacre également aux arrangements pour d'autres artistes, tels que Alpha Blondie et Abdoulaye Diabaté. Alors Alpha Blondie, je rappelle, on le connaît quand même, un chanteur de reggae ivoirien. Ah, il a 67 ans. Et Abdoulaye Diabaté, c'est un chanteur et un griot malien. Il a 68 ans, voilà. Ben oui, 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 ça, depuis le temps. Alpha Blondie, il a commencé très, très jeune. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Alors, Bonkana Maïga, il a fondé en 1992 le groupe Africando avec l'ivoirien Ibrahim Sila. Et en fait, c'est un orchestre qui intègre toutes les sonorités africaines. En 2001, il a présenté seul l'émission Star Parade, qui était diffusée sur CFI TV et sur TV5 Monde. Star Parade, d'ailleurs, célèbre son millième numéro, a célébré son millième numéro en décembre 2018. À partir de 2009, Bonkana Maïga co-anime avec la journaliste Aïssata Sissé l'émission Tunga Guna, qui est destinée à découvrir de nouveaux talents musicaux. Tunga Guna. Il a reçu en 1997 un Cora Award comme arrangeur, justement quand il était arrangeur pour Alpha Blondie éventuellement et pour Abdoulaye Diabaté. Donc c'est une co-réalisation Africa Mia de Richard Minier, qui est un réalisateur, coproducteur, directeur de la photographie, et Édouard Salier, qui est un réalisateur, scénariste, directeur également de la photographie, de 45 ans. C'était quoi leur rêve en fait, eux? Ce qu'ils ont voulu, c'est reformer, retrouver tous les gens du groupe de Bonkana Maïga et reformer ce groupe justement. C'est une histoire en fait qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand 10 musiciens maliens débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la musique. Embrassant les sonorités, ils deviennent le premier groupe afro-cubain de l'histoire, les Marivayas de Mali. 50 ans plus tard, entre Bamako et La Havane, nous partons à la recherche du maestro Bonkana Maïga, son chef d'orchestre, avec le projet fou de reformer ce groupe de légende. Voilà, voilà ce qu'ils ont voulu faire. C'est beau, c'est très très beau quand même. Je sais pas, tu n'avais peut-être pas une bande-annonce si, pour ça, pour Africa Mia.
On va l'écouter ça.
Ah, tu en as une, très bien.
Je m'appelle Richard Minier. Je suis producteur de musique. En 1999, j'ai parcouru le Mali. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai vu Dramane. Il avait quelque chose à me montrer. Ce fut la première fois que Dramane me parla du groupe. Las Maravillas de Mali.
C'était fait à Cuba.
À Cuba, ça ?
À Cuba.
C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique.
Fidel, il est venu vous voir.
Il est venu comme ça vers 2h du matin.
En fait, c'est le Tché
qui a fait l'interprète.
Qui a fait l'interprète.
Ah ouais. Ouais, nous.
Et là, le premier groupe africain, afro-cubain, était né. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique.
J'avais beaucoup de cheveux, mais les cheveux ont fait comme ça.
Ça a été une explosion dans le monde, et particulièrement en Afrique.
Au revoir.
Je n'avais plus qu'une idée en tête, celle de tous les réunir pour les faire rejouer ensemble. Africa. Africa mia, que bella de sueño, tierra de sueños, y me la... Cette histoire, c'est 18 ans d'enquête. Africa. 18 ans de quête. 45 ans après leur séparation, un nouveau chapitre pouvait maintenant s'écrire pour les Maravillas.
Chouette, hein? Chouette, chouette quand même. C'était une musique, en plus, c'est une musique extrêmement joyeuse, qui remet de la joie au cœur, je trouve, moi. C'est quand même. Ah! Et puis alors là, oh, bah, pour nos amateurs, là, pour nos grands, grands, grands amateurs de trouille, d'épouvante. Thriller, épouvante, horreur, drame britannique. C'est une reprise, en fait, d'un film extraordinaire, dans le domaine en tout cas, Ne vous retournez pas. C'est un film américain de Nicolas Roeg, qui a eu un prix et 6 nominations à l'époque quand même. Hein. C'est une belle reprise, avec Donald Sutherland, Julie Christie, Hilary Mason. Et c'était quand même pas n'importe qui, ces acteurs-là qui étaient dans ce film. C'était, en fait, ça parlait de la mort tragique d'une jeune fille. Et suite à cette mort, les Baxter, la famille, et partent à Venise afin de changer d'air. John Baxter, architecte, est embauché par un mystérieux prêtre pour rénover une église. Un jour, alors que les amoureux se baladent, deux sœurs les accostent et l'une d'entre elles, voyante, leur apprend que leur enfant, c'est-à-dire leur fille, est toujours vivante. S'en suivent d'autres rencontres et visions étranges qui feront raviver de douloureux souvenirs du passé. Voilà, c'était. Il y a une reprise de ce sublime film de ce thriller épouvante horreur drame avec des acteurs vraiment fabuleux. Ne vous retournez pas. Oui. C'est pour ça que je voulais en parler. Ça dure 1h52. Ah, essayez de trouver si vous aimez ce genre, bien sûr. Parce que celui-là, vraiment, c'est un joli, joli, joli film de trouille qui fiche la trouille en même temps avec des acteurs formidables. Trio, j'avais aussi un documentaire. Trio, ça s'appelle. C'est français et roumain. Et c'est un documentaire de la réalisatrice roumaine Ana Dumitrescu. Ana Dumitrescu, elle est chef monteuse également, directrice de la photographie. Alors là, il y a trois personnages, il y a une femme, il y a un homme et un violon. Le troisième personnage est très, très, très important, le violon, justement. Et oui, alors c'est un film à la frontière du documentaire et de la fiction, en fait. Hein. C'est l'histoire d'un amour à trois, celui d'un homme, George, de sa femme et d'un violon. Alors la réalisatrice, elle est grande amatrice hein, du violon de Georges, justement, et elle est allée parcourir la vie de cet homme et de sa culture tzigane et de son quotidien. Elle n'a pas cherché le folklore, elle a préféré peindre les habitudes de ce couple au milieu de notes de violon. C'est un portrait, voilà, de ces trois personnages, avec des moments d'une poésie simple, l'amour d'un couple et la force artistique de ce joueur de violon. Et derrière ce bonheur, il y a la Roumanie d'aujourd'hui, sa réalité sociale dure et intense qui nous est rendue supportable par cette élégance simple de Georges, sa femme et la musique. Alors Trio, finalement, c'est un voyage. On traverse des paysages, des hommes, des vies, un pays en mal d'identité et d'une musique douce et dansante. Voilà pourquoi je voulais absolument en parler, parce que pareil, bon... C'est un documentaire, presque une fiction d'ailleurs. C'est magnifique. C'est français et roumain. Ça dure 1h22. Et puis j'avais un documentaire français aussi, pareil quoi, qui est très chouette. Ça s'appelle Mathilde et Rosette. C'est de Alice Ekman, qui est une réalisatrice ingénieure du son, directrice de la photographie. Décidément, on a beaucoup d'ingénieurs du son là pour cette semaine. Alors Mathilde et Rosette, ça dure 52 minutes. C'est un documentaire. À 33 ans, Alice se rend compte, la réalisatrice, qu'elle ne connaît rien de l'histoire de sa famille. Elle décide de rendre visite à son grand-oncle, âgé de 92 ans, pour en savoir plus. S'entame alors une enquête qui lèvera peu à peu le voile sur un drame gardé secret pendant 75 ans. Un dialogue émouvant entre générations et un appel à la transmission et à la mémoire. Je trouvais que c'était très beau, voilà. Je sais pas, j'avais un autre documentaire, Une nuit au Louvre, Léonard de Vinci, de Pierre-Hubert Martin, réalisateur, assistant, opérateur, directeur de la photographie, français également. Ben évidemment que si on aime Léonard de Vinci, on doit forcément aimer ce documentaire qui dure 1h30. Il est filmé, d'ailleurs c'est filmé spécialement pour le cinéma. C'est une visite privée nocturne de l'exposition Léonard de Vinci, qui a été conçue et organisée par le Musée du Louvre. Et c'est l'occasion unique de contempler les plus belles œuvres du peintre au plus près. Voilà, c'est une grande rétrospective consacrée à l'ensemble de sa carrière de peintre et qui montre combien Léonard de Vinci a placé la peinture au-dessus de toute activité et comment son enquête sur le monde, il l'appelait science de la peinture, fut l'instrument d'un art dont l'ambition suprême était de donner la vie à ses tableaux. Il y a des éclairages qui sont apportés par les commissaires de l'exposition lors de cette visite privée filmée qui permettent en outre de mieux comprendre la pratique artistique et la technique picturale de Léonard de Vinci. Très beau, très très beau. Hein. Très beau documentaire, ah oui, à choper aussi quoi, si on veut. Voilà. On a terminé là, je dois quitter l'antenne peut-être.
Oh, tu as encore 5 minutes, si tu veux.
Parce que sinon on avait une... Je pense que tu avais une bande-annonce pour Mathilde et Rosette.
On l'écoute. Avant de se quitter, on va écouter Mathilde et Rosette.
Bande-annonce, elle est jolie.
Et voilà la bande-annonce de Mathilde et Rosette.
Et Rosette.
Alors, as-tu encore des films à nous présenter ou c'est terminé ?
Mais non, là on arrive à la fin. Il y a quand même des choses pas mal du tout qui vous feraient du bien. Mes chéris, allez vous détendre un peu au cinéma. Vous savez que pour l'instant, les cinémas restent ouverts. Hein. On n'a pas encore entendu de fermeture des cinémas. On attend, on le saura dans les jours qui viennent, peut-être même dans les heures qui viennent. Pour l'instant, les cinémas restent ouverts. Ils sont toujours extrêmement consciencieux, c'est-à-dire que moi, je les ai vus faire. Hein, avant que les gens arrivent, tout est nettoyé. Et quand les gens partent, quand les spectateurs partent, c'est pareil. Hein, tout est absolument nettoyé sans problème. Hein. Évidemment, il faut porter le masque hein, pour le cinéma. On ne peut pas y échapper. Mais ce n'est pas si gênant que ça, en fait.
Il suffit de s'y habituer.
Avec le masque. Ouais.
Il suffit de s'y habituer. Voilà, donc... n'hésitez pas à aller dans vos cinémas locaux, de proximité ou autres. Dans tous les cas, il faut en profiter.
Mais oui, c'est le moment ou jamais, parce que là, on va se restresser encore là, avec des nouvelles là, qui sont quand même encore assez oppressantes. Si vous pouvez ne pas les regarder pendant une journée, c'est quand même anxiogène. Là. Ça redevient anxiogène comme c'était au moment du confinement. Là. Alors voilà, ça recommence. Je sais bien qu'on ne peut pas non plus se dire « bon, c'est rien du tout, tout va bien ». Je sais, mais en même temps, si on peut éviter d'écouter à longueur de journée tout ce qui se dit précisément à la télévision et sur certaines radios également d'ailleurs, ça fait du bien, hein, ça repose.
Pour ça, il faut écouter Radio Entre-deux-Mers, comme ça vous serez moins pollués.
Voilà, Radio Entre-deux-Mers, vous pouvez, là, parce qu'à Radio Entre-deux-Mers, on ne va pas vous stresser, au contraire. Nous, on vous souhaite de beaucoup de bonnes choses, et puis bon, d'aller au cinéma pour vous détendre, de regarder aussi des films à la télévision, si ça vous fait plaisir, si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, et puis d'avoir votre masque toujours avec vous dans votre poche et tout ça, mais c'est tout. Mais pour le reste, écoutez, le mieux, c'est quand même de profiter de la chaleur aussi, et puis de continuer à vivre, et bon, faire attention à son entourage, faire très attention évidemment, protéger tout le monde, mais en même temps, il faut continuer à vivre, hein, parce que sinon là, ça devient terrible, quoi. Hein. Donc non, la vie continue, mes chéris, la vie continue. Voilà. Si vous êtes prudent, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Partout, vous pouvez aller partout. Si vous faites attention, vous pouvez aller partout. Voilà, c'est tout. C'est ça. Hein. En tout cas, Damien, merci pour les.
Merci pour à les toi. Merci beaucoup.
Voilà.
À toi.
Et puis, je vous souhaite, mes chéris, je vous souhaite à toi, Damien, et puis à vous, mes chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine, hein, parce qu'on se revoit, on se revoit à façon de parler, on se réentend la semaine prochaine. C'est drôle parce que j'ai toujours l'impression, moi, que je les vois, les auditeurs, comme si j'avais une boule de cristal et qu'en même temps que je leur parle, je les vois. Ça me fait toujours, je sais pas pourquoi j'ai cette impression. C'est pour ça que je dis voir et non pas entendre. En tout cas, n'oubliez pas, surtout que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.